de Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski, un adolescent. Livre premier, chapitre 1. 1. Sous une de ces impulsions à quoi on essaie en vain de résister, je me suis assis pour écrire l'histoire de mes premiers pas dans la vie. Tout était, en moi et autour de moi, si obscur. Mais quand je vivrai 100 ans, je jure de n'assumer, pour aucune autre période, une telle tâche. Il faut être trop lâchement amoureux de soi pour s'autobiographier sans honte. Du moins n'ai-je pas en vue l'applaudissement du public. Je ne suis pas littérateur, ni ne veux l'être. Et je considère comme vil de traîner au marché littéraire l'intimité de ses sentiments. Je commencerai mes mémoires au 19 septembre de l'année passée, ce jour où, pour la première fois, je rencontrai... Mais il sied que j'inscrive ici quelques mots liminaires. Il faut bien que je dise qui je suis, d'où je viens, et quel pouvait être mon état d'esprit au matin de ce 19 septembre fatidique. Ainsi serais-je plus compréhensible, sinon à un lecteur improbable, du moins à moi-même. 2. Mon âge, 20 ans. Je me nomme Dolgorouki. Légalement, j'ai pour père Makher Ivanovitch Dolgorouki. Je suis donc enfant légitime, ce qui ne m'empêche pas d'être enfant naturel, et cela à un degré éminent. Car sur mon origine, il n'y a pas le moindre doute. Voici la chose. Il y a 22 ans, le propriétaire rural Versilov, c'est mon père, qui avait alors 25 ans, visitait sa terre de la province de Toula. Cet homme, qui m'impressionnait déjà si fort dans mon enfance, qui a eu si grande influence sur la formation de mon esprit, et qui, peut-être, a scellé à sa marque tout mon avenir, il est curieux que cet homme me soit encore maintenant, sous beaucoup de rapports, une énigme. C'est précisément vers le temps de cette inspection qu'il devint veuf. Il avait épousé une jeune fille de famille noble, de fortune modeste, une Fanariotov. Il avait d'elle un fils et une fille. Des renseignements sur cette femme qui le quitta si tôt, j'en ai dans le fouillis de mes papiers, mais très incomplets. Au surplus, maintes circonstances de la vie privée de Versilov m'échappent, tant il fut toujours envers moi compassé, mystérieux et indifférent. Encore que, par moments, il m'étonna par une sorte d'humilité. Je sais pourtant qu'il dissipa 3 fortunes, en tout 400 000 roubles, plus peut-être. Bien entendu, aujourd'hui, il ne lui reste pas un copec. Il vint, ai-je dit, visiter sa propriété. Il vint, Dieu sait pourquoi, comme il me le dit lui-même dans la suite. Ses enfants ne l'accompagnaient pas. Il les avait entreposés chez des parents. Telles furent toujours ses façons à l'égard de sa progéniture légitime et illégitime. Or, au nombre des domestiques attachés à cette propriété, il y avait le Makher Ivanovitch Dolgorouki, précité, lequel était jardinier. Que je note ici pour m'en débarrasser l'irritant prestige qui, de mon nom, rejaillissait sur moi. Je ne concéderai pas volontiers que nul être au monde ait pu, du fait de son nom, être fêté autant que je fus. Écolier, chaque fois qu'une des nombreuses personnes à qui je devais du respect, maître d'école, inspecteur, pope, etc., me demandait mon nom et me l'entendait proférer, chaque fois j'étais sûre de cette réplique « Prince Dolgorouki ?» Et chaque fois je devais préciser « Non, Dolgorouki tout court. » Ce « tout court » avait fini par m'excéder. Je ne me rappelle pas une seule exception. Nul de mes interlocuteurs qui ne m'ait posé la question « Prince Dolgorouki ?» Pour bien des gens, le renseignement devait être inutile, et même je ne vois pas qui diable il a pu jamais intéresser. Mais tous s'enquéraient, tous sans exception. Apprenant que je suis Dolgorouki tout court, le questionnaire ordinairement m'enveloppait d'un regard neutre et hébété, puis il s'éloignait à pas lents. La question inéluctable, ce sont les camarades de classe qui la formulaient de la façon la plus blessante. On sait l'ingéniosité de cette engeance à berner un nouveau venu. Celui-ci est debout devant quelques gros garçons, un ancien, qui le regarde d'un œil railleur et agressif. « Ton nom ?»« Dolgorouki. »« Prince Dolgorouki ?»« Non, simplement Dolgorouki. » »« Ah, simplement, imbécile !» Et il a raison. Il n'est rien de plus sot que de s'appeler Dolgorouki sans être prince. Cette sottise, je la traîne après moi comme une queue dérisoire. Dans la suite, devenu plus irascible, à la question « Es-tu prince ?» je répondais toujours « Non, je suis le fils d'un domestique, ancien serf. » Plus tard, mon irritabilité s'était accrue et la question me crispait les nerfs et m'horripilait. Je répondis un jour « Non, Dolgorouki tout court, fils illégitime de mon ancien seigneur, Monsieur Versilov. » Ce type de réponse, je l'inaugurais en 6e année scolaire. Je me rendis compte assez vite de ce qu'il avait d'impolitique, mais je m'obstinais. Est-ce de cette boutade que s'autorisa un de mes professeurs pour déclarer que j'étais farci d'idées vindicatives et civiques? Elle était généralement accueillie par un étonnement nuancé de réprobation. Enfin, un de mes condisciples, un garçon très intelligent avec qui je causais une fois par an, me dit, sur un ton grave et en évitant mon regard, « Sans doute de tels sentiments vous honorent, mais à votre place, quand même, je ne me ferai pas gloire d'être illégitime. Et vous, pour dire cela, vous prenez un air de fête. » Je cessais de me vanter d'être illégitime. Dieu, qu'il est difficile de s'exprimer en russe, plus difficile que de s'exprimer en aucune autre langue européenne. J'ai déjà eu l'occasion de le vérifier maintes fois dans mes relations verbales avec les gens. Leur richesse intérieure est plus grande que ne le décèle l'expression. Nos mots trahissent leur homme. Voilà que j'ai rempli 3 pages à dire comment je passais ma vie à m'exaspérer de mon nom. Et le lecteur aura déjà conclu que je m'exaspère expressément de n'être pas prince, mais Dolgorouki tout court. Il serait humiliant pour moi de m'expliquer. 3. Dans la valetaille de la propriété de M. Versilov, 500 âmes, il y avait une jeune fille, laquelle était âgée de 18 ans, quand Macaire Dolgorouki, quinquagénaire, s'était avisé subitement de l'épouser. Les mariages de serfs se faisaient avec la permission du maître et quelquefois même sur son ordre. À cette époque, la tante était dans la propriété de M. Versilov. Tout le monde l'appelait tante. Elle n'était d'ailleurs la tante de personne, sauf peut-être, vaguement, de M. Versilov. Elle avait nom Tatiana Pavlovna Proutkov. C'était une propriétaire rurale des environs, riche de 35 âmes. Elle ne gérait pas la propriété Versilov, mais, à la faveur du voisinage, elle la surveillait. Surveillance qui valait une gérance habile. Laissant de côté sa compétence administrative, je dirais que Tatiana Pavlovna était une créature vraiment noble et d'ailleurs originale. Non seulement elle ne détourna pas le revêche macaire Dolgorouki de ses intentions matrimoniales, mais elle les encouragea. Sophie Andreyevna, la serve de 18 ans, ma mère, était orpheline depuis 10 ans. Feu son père, serf lui aussi, qui estimait beaucoup macaire Dolgorouki, et lui était reconnaissant d'un service obligeamment rendu, avait, à son lit de mort, appelé cet homme, et devant le prêtre et les domestiques, lui avait dit, désignant sa fille, « Élève-la et épouse-la. » Tous ont entendu ces mots. Quant à Makaire Ivanovitch, je ne sais pas s'il l'épousa par amour ou par devoir. Le plus probable, c'est qu'il fut, en l'espèce, tout à fait indifférent. C'était, malgré son humble condition, un homme de poids. On ne peut dire qu'il fût raisonneur. Il était tout simplement d'un caractère têtu, parlait avec autorité, jugeait les choses de haut, et, selon sa propre et admirable expression, vivait respectablement. Tel il était à cette époque. Certes, il sut acquérir l'estime générale, mais on s'accordait à le juger insupportable pour tout le monde. Quand il eut quitté le service, persista de lui le souvenir d'un saint qui a beaucoup souffert. Cela, je le sais pertinemment. Et voilà pour Makaire Ivanovitch Dolgorouki. Quant à ma mère, jusqu'à ses 18 ans, Tatiana Pavlovna la garda près d'elle, malgré les instances de l'intendant qui voulait l'envoyer en apprentissage à Moscou. Tatiana Pavlovna lui donna une certaine éducation, c'est-à-dire l'initia à la couture, à la coupe, aux belles manières et même à la lecture. Ma mère ne sut jamais écrire correctement. Son mariage avec Makaire Ivanovitch, elle ne l'avait jamais mis en question. N'était-ce pas une affaire définitivement résolue? Elle marcha à l'hôtel, de l'air le plus placide, si bien que Tatiana Pavlovna elle-même lui décerna à cette occasion le nom de « moule ». Tout cela sur le caractère de ma mère, je l'ai appris de Tatiana Pavlovna elle-même. Versilov arriva à la campagne juste 6 mois après ce mariage. 4. Jamais je n'ai pu savoir ni présumer comment les choses ont commencé entre lui et ma mère. Je veux bien croire, comme il me l'a affirmé lui-même l'année dernière, non sans que son visage s'empourprât, qu'il n'y eut aucun roman entre eux et que tout se passa comme ça. Comme ça, j'en conviens, a de la saveur, mais une saveur un peu vague, et je serais curieux de savoir comment les choses ont pu se passer. J'ai une sincère répugnance pour certaines saletés, mais je ne crois pas que, dans le cas actuel, ma curiosité soit une curiosité malsaine. D'ailleurs, l'année dernière, je connaissais à peine ma mère. Dès l'enfance, on m'a confié à des étrangers, pour la commodité de Versilov. J'y reviendrai. Aussi, je ne réussis pas à me figurer quel pouvait bien être le visage de ma mère à cette époque. Si elle n'était pas belle, alors par quoi fut donc séduit le Versilov de cette époque? Question qui, pour moi, a son importance. Sa solution peut déterminer un des aspects de cet homme. Ce n'est donc pas par dépravation que je me la pose. Lui-même, ce taciturne personnage, avec cette charmante bonhomie qu'il a l'air de tirer de sa poche au moment juste où il en a besoin, lui-même m'a dit qu'à cette époque, il était très jeune et pas du tout sentimental. Il lisait Anton Goremyka et Polineka Saxe, deux livres qui eurent une énorme influence civilisatrice sur la jeune génération d'alors. Il ajouta, avec un grand sérieux, que c'est peut-être à cause d'Anton Goremyka qu'il vint à la campagne. Comment diable put bien s'engager la conversation entre ce jeune homme un peu nigaud et ma mère? J'imagine que si j'avais un seul lecteur, je lui donnerais à rire. Voit-on ce coquebin s'attaquer à telles questions épineuses et prétendre les résoudre par la vertu sans doute de son inexpérience? D'accord, je suis pauvre de documentation personnelle, et ce n'est pas par orgueil que je le dis, sachant ce qu'il peut y avoir de ridicule dans l'ingénuité d'un grand gaillard de 20 ans. Seulement, je ferai remarquer à ce monsieur qu'il serait aussi embarrassé que moi. C'est vrai, je ne sais rien des femmes, et même je n'en veux rien savoir. Toute ma vie, je cracherai sur ces espèces, je m'en suis donné ma parole. Mais je sais pourtant, de science certaine, que telle femme séduira spontanément par sa beauté ou par n'importe quelle qualité évidente de prime abord, et que telle autre, il faudra l'étudier 6 mois pour discerner la source du charme qui émane d'elle, et même pour percevoir ce charme. Celle-ci, pour la comprendre, ce sera peu d'ouvrir les yeux et d'être entreprenant. C'est de bien autre chose qu'il s'agira. J'en suis convaincue malgré mon inexpérience, et si je m'abuse, qu'il n'en soit plus question, et mettons toutes les femmes au rang d'animaux familiers. On les gardera près de soi comme telles. Ce ne sera pas pour leur déplaire. Je sais que ma mère n'était pas belle. Bien que je n'aie vu d'elle aucun portrait datant de cette époque, je sais qu'elle n'était pas belle. S'éprendre d'elle d'un coup, on ne le pouvait donc pas. Si Versilov se fût soucié simplement de se distraire, il eût choisi une autre femme. Justement, il y en avait une toute désignée à ses entreprises et qui n'était pas mariée. La chambrière Anfissa Konstantinovna Sapochkov. N'eût-il pas été honteux qu'un homme qui arrivait là en lisant Anton Goromyka se fît un jeu de la sainteté du mariage, qu'un tel homme, se targuant odieusement de son droit de propriétaire, disloqua le ménage d'un de ses serfs. Or, je le répète, il y a quelques mois, donc 20 ans après les événements, il m'a parlé avec gravité de cet Anton Goromyka. Et Anton, on ne lui a dérobé que son cheval, et non sa femme. Évidemment, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, grâce à quoi Mademoiselle Sapochkov a perdu la partie. Selon moi, a gagné. J'ai assisté près de lui, une ou deux fois l'an passé, à ces moments où on pouvait lui parler. On ne peut pas toujours lui parler. J'ai insisté sur toutes ces questions et j'ai remarqué que lui, malgré son flegme aristocratique et l'ascendant de l'âge, ne laissait pas que d'être un peu déconfit. Mais j'ai insisté. Je me rappelle qu'un jour, dans une conversation où, comme d'ordinaire, il tenait sa partie sur un ton détaché, sa parole eut un glissement et il me confia que ma mère était une de ces personnes sans défense, qu'on n'aime pas nécessairement, dont on a subitement pitié, pour leur douceur ou pour quelle autre cause, dont on a pitié pour longtemps. On a pitié et on s'attache. En un mot, mon cher, il arrive parfois qu'on ne se détache pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Et si en effet ce fut ainsi, je suis bien obligée de croire qu'il n'était pas alors le blanc-bec qu'il prétendait. Puis il m'indiqua que ma mère l'avait aimé par humilité. Tout cela, je le note en quelque sorte à la louange de ma mère. J'ai déclaré que je ne savais rien de son lointain passé. Si, je sais fort bien l'étroitesse morale du milieu où elle avait vécu, et cette discipline misérable à quoi, rompue dès l'enfance, elle s'astreignit toute la vie. Néanmoins, le malheur arriva. Et ici, il faut que je précise. À voler dans les nuages, j'ai omis une constatation essentielle, à savoir que le malheur se situe à l'origine même de leur aventure. J'espère que le lecteur comprendra d'un coup de quoi je veux parler. Rien là qui soit en contradiction avec ce qui précède. Car de quoi, ô mon Dieu, et dans l'hypothèse même de l'amour le plus irrésistible, de quoi aurait pu parler le Versilov de ce temps-là à la personne qu'était alors ma mère? J'ai entendu dire que souvent l'homme s'unit à la femme dans un monstrueux silence. Monstrueux? Non, dans le cas que j'élucide. En dépit qu'il en eût, Versilov ne pouvait, me semble-t-il, commencer autrement avec ma mère. Pouvait-il commencer par lui expliquer Polineka Saxe? Selon ses propres paroles, ils se cachaient dans les coins, s'attendaient l'un l'autre dans les escaliers. Quelqu'un passait-il? Ils se séparaient brusquement, le visage en feu. Le seigneur tyran tremblait devant la moindre servante. Le développement de leur amour est une énigme. L'usage est qu'un homme à la Versilov quitte sa partenaire dès que le but est atteint. Il ne se conforma pas à la coutume. Pour un jeune gaillard bien râblé, pêcher avec une servante accorte et coquette, Mais ma mère n'était pas du tout coquette. C'est non seulement licite, c'est encore inévitable. Et on eût facilement absous mon père, en considération de sa situation romanesque de jeune veuf et de son oisiveté. Mais aimer pour toute la vie... Je ne garantis pas qu'il l'ait aimé expressément, mais qu'il l'ait traîné toute sa vie après lui, c'est un fait. J'ai posé beaucoup de questions, mais il en est une, et la plus importante, que je n'osais poser franchement à ma mère. Pourtant, j'eus avec elle, l'année dernière, bien des entretiens propices aux confidences. Pourtant, chien vil et ingrat, enclin à exagérer mes griefs, je ne me gênais guère avec elle. Cette question, la voici. Comment, mariée depuis 6 mois et imbue de la superstition du mariage, comment, elle qui tenait son Makaire Ivanovitch pour une manière de Dieu, avait-elle pu, en moins de 2 semaines, se laisser choir dans un tel péché comme une mouche? Ce n'était pas une femme dépravée, ma mère. Et même je veux dire qu'il est difficile de se représenter une âme plus pure et qui soit restée aussi inviolablement pure. On pourrait alléguer qu'elle agit inconsciemment, mais il siérait de ne pas prendre ce mot au sens que lui donne un avocat qui plaide pour un voleur ou un assassin. Si elle succomba, ce fut sous une de ces impulsions fortes qui fatalement et tragiquement étourdissent la victime. Peut-être était-elle éprise jusqu'à la mort, de la coupe de son habit, de la raie bien parisienne de ses cheveux, de sa façon si correcte de prononcer le français dont elle ne comprenait pas un mot, ou de cette romance qu'il chantait au piano. Elle était éprise de quelque chose qu'elle n'avait jamais encore vu ni entendu. Il était très beau. Et d'un coup, elle s'était, jusqu'à l'oubli de tout, éprise de lui, de la coupe de son habit, de ses romances. J'ai entendu dire que chez les jeunes serves, même parmi les plus honnêtes, le cas n'était pas rare. Oui, cette raison était suffisamment puissante. Et pour expliquer le phénomène, il n'est nullement besoin de mettre en jeu le droit du maître, ni la notion d'humilité. Ce jeune homme pouvait parfaitement avoir en lui assez de force charmeuse pour qu'une créature pure, et même, sinon surtout, une créature tout à fait différente de lui, tout à fait d'un autre milieu, fût attirée vers lui au prix de sa perte évidente. Ma mère, je veux croire, comprit nettement que dans ce jeu, tout concourait à sa perdition. Et peut-être n'est-ce qu'à la minute pathétique qu'elle cessa de voir le danger. Il en est toujours ainsi chez ces sans défense. Elles voient l'abîme et elles y marchent, candide. Leur repentir coïncida avec leur péché. Versilov m'a dit avoir sangloté sur l'épaule de Makaire Ivanovitch, appelé à cet effet dans le cabinet de travail du maître. Cependant qu'elle gisait, inanimée dans sa chambrette qui donnait sur la cour. 5. Mais en voilà assez sur ces choses clandestines. Versilov racheta ma mère et partit bientôt avec elle. Dès lors, comme je l'ai écrit déjà, il la traîna derrière lui partout, sauf quand il s'absentait pour longtemps. Alors, d'ordinaire, il la confiait aux soins de Tatiana Pavlovna Proudkov, qui toujours, dans ces occasions, surgissaient de quelque part. Ils habitaient Moscou, ils habitaient ça et là à l'étranger, ils habitaient Pétersbourg. S'il y a lieu, je parlerai plus tard de tout cela. 1 an et demi après le mariage avec Makaire Ivanovitch, je vins au monde. L'année suivante me naquit une sœur, et 11 ans plus tard, un frère qui mourut au bout de 2 mois. Cette fois, les couches avaient été difficiles. Ma mère y perdit sa beauté, du moins me l'a-t-on dit, et commença à décliner. Jamais les relations avec Makaire Ivanovitch ne furent interrompues. Où que fussent les Versilov, Makaire Ivanovitch ne manquait pas de donner de ses nouvelles à la famille. Il semble que de si anormales relations dussent avoir quelque chose d'un peu ridicule. Point. Deux fois par an, ni plus ni moins, on recevait une lettre. Ces lettres, je les ai lues. Elles se ressemblaient extraordinairement. Là, presque rien qui eût un caractère personnel, mais des phrases cérémonieuses sur les événements les plus ordinaires et les sentiments les plus généraux. Tout d'abord, l'expéditeur fournissait des informations sur sa santé et en sollicitait, touchant celle des destinataires. Venaient ensuite en bon ordre les saluts et les bénédictions. C'était tout. À notre très chère et respectable épouse Sophie Andreïevna, j'envoie le salut le plus profond. À nos aimables enfants, j'envoie ma bénédiction paternelle indéfectible. Les enfants, au fur et à mesure de leur apparition, étaient enregistrés sous le nom de leur père légal. Je ferai remarquer ici que Makaire Ivanovitch avait trop de tact pour jamais donner du « mon bienfaiteur » au très respecté monsieur André Petrovitch, bien que dans chaque lettre, il lui envoyât immanquablement son salut le plus profond, lui demanda sa grâce et appela sur lui la bénédiction divine. Ma mère répondait à Makaire Ivanovitch, presque courrier par courrier, et dans un style analogue. Versilov sans doute ne participait pas à la correspondance. Makaire Ivanovitch écrivait de localités fort diverses. Il séjournait des semaines, des mois, dans un couvent, puis se rendait dans quelque autre couvent. Il était devenu ce qu'on appelle un pèlerin. Jamais il ne nous a rien demandé. Mais tous les 3 ans, il arrivait à la maison pour y passer quelques jours et s'installait chez ma mère, qui avait toujours son appartement distinct de celui de Versilov. De cela, il me faudra parler plus loin. Ici, je remarquerai seulement que Makaire Ivanovitch s'installait en modeste appareil. Un divan dans un coin, derrière un paravent, lui suffisait. Et il ne s'éternisait pas. 5 jours, 1 semaine... J'ai omis de mentionner qu'il était plein de respect envers son propre nom de Dolgoroukhi. Et pourquoi? Parce que ce même nom est porté par des princes. Comme on voit, le personnage ne laissait pas d'avoir des côtés comiques. Bien entendu, je n'étais jamais de ces assemblées familiales. Presque dès ma naissance, j'avais été éliminée. Des étrangers étaient commis à ma garde et à mon éducation. Oh, cela n'impliquait à mon égard aucune malveillance délibérée. C'était comme cela, tout simplement. Lors de ma naissance, ma mère était encore jeune et belle. Cet homme était donc soucieux de l'avoir tout à lui, et l'enfant crieur était encombrant, surtout en voyage. De sorte que jusqu'à ma 20e année, je n'ai vu ma mère que 2 ou 3 fois, par hasard. De ce modus vivendi, naturellement, elle n'était pas responsable. L'arrogance de Versilov réglait notre commerce. 6. Passons à un autre sujet. Un mois avant, je veux dire un mois avant le 19 septembre, à Moscou, je résolus de renoncer à tout ce monde et à me renfermer définitivement dans mon idée. Me renfermer dans mon idée, dans l'idée pour la réalisation de quoi je persiste à vivre. Ce qu'est mon idée, je le dirai plus tard, et ne le dirai que trop. Elle commença à se configurer dans mon esprit vers le temps où j'étais en 6e année scolaire, et depuis, elle fut ma compagne de tous les instants. Elle absorba ma vie. Avant qu'elle apparût, je vivais dans une atmosphère de rêve. Elle les dissipa, s'installa, despotique. Les occupations du lycée furent impuissantes contre elle. Moi qui avais toujours été parmi les premiers de ma classe, je terminais mal mes études. À ma sortie du lycée, j'avais alors 19 ans, ma résolution était prise de rompre tout lien de famille et même, s'il était nécessaire, de m'isoler de tout le monde. J'avais écrit à Pétersbourg qu'on voulut bien désormais me laisser absolument tranquille, ne plus m'envoyer de subsides et m'oublier, si toutefois ce n'était déjà fait. Je notifiai en outre ma décision de ne pas entrer à l'université. J'étais, en effet, pris dans ce dilemme. Ou renoncer à l'université et aux études supérieures, ou ajourner à 4 ans la réalisation de mon idée. Versilov, mon père, que je n'avais vu qu'une fois encore, à l'âge de 10 ans, Versilov, en réponse à ma lettre, qui cependant ne lui était pas directement adressée, m'appela par lettre à Pétersbourg, où, me disait-il, il allait me trouver une place. Ainsi, cet homme hautain et taciturne, qui, m'ayant mis au monde, puis m'ayant retranché de sa vie, n'avait nul repentir, ni de ceci, ni de cela, et qui sans doute ne possédait sur mon existence même que des notions vagues. Comme je le sus plus tard, ce n'est pas lui qui avait supporté les frais de mes années de Moscou. Cet homme se souvenait brusquement de moi et m'honorait d'une lettre autographe. Un tel appel me séduisit pour ce qu'il avait d'inopiné et décida de mon sort. D'ailleurs, il me plut que dans cette lettre, une page de petit format, pas un mot ne concerna l'université, ne me reprocha de refuser de m'instruire, ne m'objurga de changer d'avis. Bref, aucune des classiques blagues paternelles. Peut-être ne fallait-il voir là qu'une marque nouvelle de l'ancienne indifférence. Je me décidai à déférer à l'invitation de Versilov. Rien là qui compromît la réalisation de mon rêve. Si la voie où j'allais m'engager m'éloignait du but, je saurais à temps bifurquer ou revenir sur mes pas. Je romprais avec ma famille et m'enfermerais dans ma carapace. Oui, je m'y enfermerais comme une tortue. Cette comparaison me plut, et continuant à ratiociner, jamais je n'abandonnerai mon projet quand ils me plairaient tous là-bas, quand ils me donneraient le bonheur, quand je vivrai 10 ans avec eux. Dans ce conflit entre la rigidité de mon projet et les compromissions qu'impliquaient les conditions de cette vie nouvelle, il y avait, me semble-t-il, le germe des nombreuses imprudences que j'ai commises au cours de cette année, de mes lâchetés, de mes vilainies et de mes sottises. Cet homme, qui m'avait délaissé et humilié, avais-je pour lui de l'amour ou de la haine? Je ne sais, mais toutes les songeries de mon enfance s'étaient concentrées sur lui pendant des années, obstinément. Un père. J'allais enfin avoir un père. Cette pensée m'enivrait, tandis que le wagon m'emportait vers Pétersbourg, et je me complaisais aussi dans cette pensée que j'allais paraître là-bas en justicier et en maître. On pourrait se méprendre au sens de mes paroles. Je dirais donc ici que c'était des sentiments généreux qui bouillonnaient en moi. Versilov s'attendait sans doute, mais se donnait-il seulement la peine de penser à moi, à se trouver en présence d'un petit garçon, d'une espèce de blanc-bec, prêt à s'ébahir de la moindre vétille. Or, je connaissais déjà les dessous des choses, et je détenais à son insu tel document qu'il eût payé volontiers, je le sais maintenant avec certitude, au prix de quelques années de sa vie. Mais voilà que je parle par énigme. Hors de la lumière des faits, les sentiments restent troubles. Je mettrai donc les faits en place. C'est pour cela que je me suis assis devant cet encrier. 7. Déblayons. Il faut que j'arrive à la date que j'ai consignée au début de ces pages. Je noterai brièvement que je les trouvais tous, Versilov, ma mère et ma sœur, celle-ci je la voyais pour la première fois, presque dans la misère ou à la veille de la misère. Qu'ils fussent dans une situation pénible, je le savais déjà avant de partir pour Pétersbourg, mais ce que je vis dépassa cruellement mon attente. Et d'ailleurs, mon imagination avait toujours été rebelle à se représenter cet homme, mon futur père, autrement que paré d'un prestige qui le désignât au premier rang. Jamais, jusqu'à ces temps derniers, Versilov n'avait habité ostensiblement le même appartement que ma mère, cela par un lâche souci des convenances. Mais maintenant, tous vivaient ensemble, dans un pavillon de bois d'une ruelle. Tous les objets de quelque prix étaient en gage chez le prêteur, de sorte que je donnai à ma mère, en cachette de Versilov, mes mystérieux 60 roubles. Précisément, mystérieux. Je les avais prélevés, les 2 années précédentes, sur les 5 roubles mensuels de mon argent de poche. Ces économies avaient commencé le jour même de l'éclosion de mon idée. Ma mère et ma sœur faisaient des travaux de couture. Versilov, lui, vivait oisif et conservait maintes habitudes assez dispendieuses. Il grognait horriblement, surtout à table. Tous ses procédés étaient d'un despote. Mais ma mère, ma sœur et Tatiana Pavlovna, et toute la famille de feu Andronikov, qui avait été tout ensemble chef de bureau dans quelques ministères et gérant des affaires de Versilov et qui était mort depuis 3 mois. Famille consistant en un nombre considérable de femmes, l'adorait comme un fétiche. Cela ne laissait pas de m'étonner. Quand, 9 ans auparavant, je l'avais vu, il avait incomparablement plus de lustre. Comment, en 9 ans, peut-on vieillir, se faner de la sorte? Mon premier sentiment à le revoir fut de déception, de malaise et de tristesse. Pourtant, ce n'était pas encore un vieillard. Il avait 45 ans. Et à le bien regarder, son masque, s'il n'avait plus la vivacité, l'assurance et l'éclat de jadis, impressionnait davantage. La vie en sa complexité s'y était inscrite. La misère était peut-être le moindre des soucis de Versilov. Et d'ailleurs, il avait toujours l'espoir d'avoir gain de cause dans un procès d'héritage qui était pendant, depuis 1 année, entre lui et les princes Sokovski. D'un jour à l'autre, une propriété valant bien 70 000 roubles pouvait lui échoir. Lui qui avait dissipé 3 héritages serait sauvé par un 4e. En attendant les prospérités, on souffrait. Personne qui prêta sur espérance. Au surplus, Versilov n'allait chez personne, bien que parfois il s'absentât pour toute la journée. Il y a déjà plus d'un an qu'il a été chassé de la société. Cette histoire, malgré tous mes efforts, m'est encore mystérieuse, après 1 mois de séjour à Pétersbourg. Versilov est-il coupable ou non? Voilà ce qui m'importait. Voilà pourquoi j'étais venu. Tous s'étaient détournés de lui, notamment les hommes de poids, les hommes à influence, les hommes largement pavoisés d'honorabilité. Ils durent se détourner de lui à cause des bruits qui circulaient sur certains actes très bas et, ce que le monde tient pour pire, scandaleux, qu'il aurait commis en Allemagne. On parlait même d'une gifle qu'il aurait reçue trop publiquement d'un des Sokolski et à laquelle il n'aurait pas répondu par le moindre cartel. Ses enfants légitimes eux-mêmes, un fils et une fille, avaient rompu avec lui. Il est vrai que ce fils et cette fille fréquentaient dans la plus haute société grâce au Fanariotov et au vieux prince Sokolski, ancien ami de Versilov. Cependant, en l'observant attentivement tout ce mois, j'ai pu voir qu'il était loin d'avoir abjuré toute arrogance, et, m'a-t-il semblé, ce n'est pas tant la société qui l'a exclu de son cercle, c'est lui plutôt qui a tenu à distance la société. Mais avait-il le droit de prendre vis-à-vis d'elle ses grands airs? Voilà ce qui m'inquiétait. La vérité, je la voulais connaître péremptoirement et vite, car j'étais venu juger cet homme. Mes forces, je les lui cachais encore, mais il me fallait ou me déclarer pour lui, ou le repousser de moi. Cette éventualité-ci m'était douloureuse. J'en ferai enfin l'aveu complet. Cet homme m'était cher. Cependant, je vivais avec eux dans le même appartement, et je contenais à grand-peine, si même je la contenais, mon irritabilité. Au bout d'un mois, j'étais bien convaincue que je n'avais pas pu faire fond sur Versilov pour des explications définitives. Ses manières badines me blessaient à vif et je les aurais préférées acrimonieuses. Dans nos conversations, il affectait un ton supérieur, équivoque et sarcastique. Même à mon arrivée, ce n'est pas avec sérieux qu'il m'accueillit. À ce régime, du moins, il a gagné, si c'était son dessein, de rester pour moi impénétrable. Quant à moi, je ne m'humilierai pas à solliciter qu'il veuille bien renoncer à ses façons déroutantes. Et je cessai moi-même de parler sérieusement. Je cessai même de parler, et j'attendis. J'attendis l'arrivée à Pétersbourg de certaines personnes par qui je saurais, et de source sûre, la vérité. C'était mon dernier espoir. Et déjà je prenais mes dispositions en vue d'une rupture. Certes, je regretterais ma mère. Pourtant, je la mettrais en demeure d'opter, elle et ma sœur. Ma formule était prête, ou lui ou moi. J'avais fixé le jour. En attendant, je continuais à vaquer à mon service. Chapitre 2. 1. C'est à cette date du 19 que je devais toucher mon salaire pour le premier mois de mon service chez le vieux prince Sokolski. Cet emploi, il me l'avait fait obtenir sans me demander mon avis, et il m'avait fait entrer en fonction le jour même, je crois bien, de mon arrivée à Pétersbourg. Procédé expéditif, contre lesquels je fus sur le point de protester. Mais une protestation eût peut-être amené une rupture, ce qui en soi n'était pas pour m'effrayer, mais pouvait nuire à mes desseins. J'avais donc accepté en silence, mettant ma dignité sous la sauvegarde de ce silence même. Je dirai tout de suite que ce prince Sokolski, homme opulent et conseiller intime, n'était à aucun titre parent de ces princes Sokolski de Moscou, gueux de génération en génération, avec qui Versilov était en procès. Il y avait simplement là similitude de nom. Néanmoins, le vieux prince s'intéressait fort à eux, à l'un d'eux, surtout l'aîné, lequel était officier. Versilov avait toujours eu une grande influence sur le vieillard, était même son ami, ami singulier envers qui le prince éprouvait une crainte un peu superstitieuse. Il ne s'était pas vu ces temps derniers. L'acte fâcheux dont on incriminait Versilov touchait précisément la famille du prince. Mais Tatiana Pavlovna était ici, et par son intermédiaire, je fus placé chez le vieux, qui était en quête d'un jeune homme, scribe ou secrétaire. Il semblait donc qu'il voulût être agréable à Versilov, faire le premier pas vers lui, et Versilov le lui permit. Le vieux prince agissait ainsi en l'absence de sa fille, veuve d'un général, et qui assurément eût mis obstacle à ce pas. Je reviendrai là-dessus. Mais je veux noter que ce caractère anormal des relations du prince avec Versilov m'a frappé à l'avantage de celui-ci. Si le chef de la famille offensée lui conserve son estime, quelle créance donner au bruit en circulation ? Cette Tatiana Pavlovna que je retrouvais à Pétersbourg y était une façon de personnage. Au cours de ma vie, chaque fois que j'avais dû m'installer quelque part, elle avait surgi. D'où ? Sur quel ordre ? Le fait s'était produit à mon entrée à la pension Touchard, à mon entrée au lycée, à mon entrée chez l'inoubliable Nicolas Siméonovitch. Dans ces circonstances-là, elle passait avec moi toute la journée, inspectait mon linge et mes effets, courant à travers la ville pour telle ou telle formalité, telle ou telle emplette, veillant à ce que rien de ce qui m'était nécessaire ne me manquât. Cependant, elle ne cessait de maugréer contre moi. Elle me donnait en exemple maints garçons accomplis qu'elle inventait sans doute pour les besoins de la cause. Elle me pinçait, me bourrait, me houspillait, disparaissait sans laisser de traces pour des années. Après quoi, de rechef, elle réapparaissait en son rôle de factotum. Elle avait une petite figure maigre, au nez pointu, aux yeux d'oiseau. Elle servait Versilov comme une esclave, s'inclinait devant lui religieusement. Bientôt, je remarquai avec étonnement que partout on la connaissait et que partout on l'estimait. Le vieux prince Sokolski lui témoignait un respect extraordinaire, et la famille du prince et les enfants légitimes de Versilov et les Fanariotov. Cependant, elle vivait de la couture, du nettoyage des dentelles, de besognes pour magasins de confection. À notre rencontre à Pétersbourg, dès les premiers mots, nous fûmes en querelle. Elle avait jugé à propos de me morigéner comme 6 ans auparavant. Nous avons continué à disputer, ce qui ne nous empêchait pas de causer parfois. Et j'avoue qu'à la fin du mois, elle commençait à me plaire. Ses façons indépendantes avaient de la saveur. D'ailleurs, je lui tus cette sympathie naissante. Je compris immédiatement qu'on m'avait placé auprès de l'égrottant vieillard pour l'amuser, et qu'en cela consistait toute ma tâche. Comme on pense, cela m'humiliait, et je voulus aviser en conséquence. Mais bientôt mon commerce avec ce vieil original fit naître en moi un sentiment assez inattendu, quelque chose comme de la pitié. Et à la fin du mois, je crois que je l'aimais. Du moins, n'avais-je plus la démangeaison de lui dire des injures. Le prince Sokolski est sexagénaire. Il y a 18 mois, au cours d'un déplacement, il devint fou. La nouvelle de sa folie fit grand bruit à Pétersbourg. Comme c'est l'usage en pareil cas, on l'emmena immédiatement à l'étranger. 5 mois après, il reparut, guéri. Pourtant, il abandonna le service. Versilov affirmait, et peut-être avec trop de chaleur, que le prince n'avait pas le moins du monde eu un accès de folie, mais simplement des crises de nerfs. Moi-même étais assez enclin à adopter cette version. Rien ne paraissait différencier le Sokolski nouveau du Sokolski d'avant l'aventure. Sauf, peut-être, selon les gens, une frivolité trop en contraste avec la gravité afférente au noble âge de 60 ans. Notamment, on remarquait en lui une recrudescence de ses penchants matrimoniaux. Plusieurs fois pendant cette année et demie, il avait fait des préparatifs en vue de convoler. On le savait dans le monde et on s'y intéressait. Mais, comme de telles visées correspondaient mal aux intérêts de certaines personnes de son entourage, on veillait sur le vieux. Veuf depuis 20 ans déjà, il n'avait qu'une fille, cette veuve de général, qui arriverait de Moscou d'un jour à l'autre et dont il redoutait le caractère. Mais il pouvait cataloguer, du fait surtout de sa défunte femme, force parents éloignés, qui tous étaient d'assez pauvres diables. En outre, il couvrait de sa protection une légion d'individus de sortes diverses qui tous espéraient bien trouver place dans ses dispositions testamentaires et, par conséquent, aidaient la générale à le surveiller. D'autre part, cette manie était sienne de marier les filles pauvres. Il en mariait depuis 25 ans déjà. Parentes lointaines, filleules et jusqu'à la fille de son portier. Il les hospitalisait chez lui dès leur bas âge, les faisait élever par des gouvernantes françaises, puis les plaçait dans les meilleures écoles, et enfin il les dotait et les mariait. Tout ce monde grouillait autour de lui. Ses protégés, naturellement dès le 9e mois de leur mariage, procréaient des filles abondamment, et celles-ci s'ingéniaient à s'installer, elles aussi, sous son toit. Il baptisait de toutes parts, recevait le jour de sa fête des souhaits en foule, à quoi il se délectait. Entré à son service, je remarquai vite, et cela ne pouvait pas ne pas se remarquer, qu'une conviction était ancrée en lui, à savoir que tout le monde le regardait d'un air singulier, qu'on ne se comportait pas avec lui comme au temps de sa pleine santé, et cela jetait une ombre sur tous ses plaisirs mondains. Il interrogeait soupçonneusement les regards. Le croyait-on fou? Moi-même, il m'observait parfois d'un œil méfiant. Certes, s'il savait que quelqu'un répandit le bruit de son déséquilibre, lui, pacifique entre tous, se découvrirait pour le médisant des trésors de haine. Je m'évertuais à ne rien faire qui offusquât sa susceptibilité légitime, et j'étais content quand il m'arrivait de l'égayer. Je veux croire que cet aveu n'entache pas ma dignité. La majeure partie de sa fortune était engagée dans les affaires. Récemment encore, il était entré comme associé dans une très solide compagnie anonyme. Bien que l'administration incombate à ses coparticipants, il s'y intéressait fort, assistait aux réunions des actionnaires, siégeait dans les conseils, prononçait de longs discours, faisait des objections, du bruit, et y prenait plaisir. Prononcer des discours lui était une joie. À la faveur de ses manifestations, on pouvait vérifier la loi de son esprit. Et même dans l'intimité, il aimait rehausser sa conversation d'une idée ostensiblement judicieuse ou d'un bon mot. Je comprends cela. Au rez-de-chaussée de son hôtel était aménagée une façon de bureau. Là, un employé vérifiait les comptes, tenait les livres. De là, il administrait la maison. Cet employé, qui d'ailleurs était titulaire d'un emploi en quelque ministère, suffisait à sa tâche. On m'adjoignit à lui pour la forme. En fait, je fus installé dans le cabinet du prince. Travailleur illusoire, je ne sauvais même pas les apparences. Assis à une table vierge de tout papier. J'écris maintenant comme un homme qui depuis longtemps déjà s'est ressaisi et qui est devenu un spectateur désintéressé. Mais comment exprimer la tristesse qui pesait sur moi et cette nervosité qui peuplait d'énigmes mes insomnies? 2. Demander de l'argent, même celui d'un appointement régulier, c'est fort désagréable pour qui sait ne l'avoir pas gagné. La veille, j'avais entendu ma mère chuchoter à ma sœur, en cachette de Versilov, pour ne pas attrister André Petrovitch, son projet de porter aux Lombards une icône, à quoi, je ne sais pour quelle cause, elle tenait fort. Je servais le prince au tarif de 50 roubles par mois, mais j'ignorais comment me serait remise cette somme. On ne m'avait rien dit à ce sujet lors de mon entrée en fonction. 3 jours avant la fin de mon mois de travail, j'avais demandé à l'employé aux écritures « De la main de qui reçoit-on les appointements ici ?» Il m'avait regardé avec un sourire d'ironique étonnement. Il ne m'aimait pas. « Ah, vous recevez des appointements ?» Il voulut bien ne pas continuer par la question « Pourquoi, diable ?» et simplement déclara ignorer à qui incombait le paiement de ma solde. Après quoi, il avait piqué une tête dans ses registres. Pourtant, il savait que je n'étais pas strictement inactif. 2 semaines auparavant, j'avais consacré 4 jours à la mise au net d'un brouillon du prince. Il s'agissait d'une suite d'idées que celui-ci se proposait de formuler devant l'Assemblée des actionnaires. Coordonner ses griffonnages et en clarifier le style n'était pas une tâche si aisée. Quand la rédaction fut au point, le prince me convia à une séance de critique. À cet effet, nous passâmes 1 journée en tête-à-tête. Il discuta très chaudement avec moi. Somme toute, il se déclara satisfait. S'est-il servi de mon travail? Je ne sais. De plus, j'avais libellé 2 ou 3 lettres d'affaires. Autre cause pourquoi j'hésitais à réclamer mes appointements. J'avais décidé de donner ma démission, persuadé qu'aussi bien les circonstances me forceraient à lui fausser compagnie. En m'habillant ce matin-là, je sentis mon cœur battre à larges coups. Je réfrénai mon émotion, mais elle reprit le dessus au moment où j'entrai chez le prince. Ce même matin devait arriver cette personne, cette femme de qui j'attendais l'explication de tout ce qui me tourmentait. Je veux dire la fille du prince, la jeune veuve dont j'ai déjà parlé et qui était en inimitié avec Versilov. Bref, la générale Akhmakov. J'écris enfin son nom. Je ne l'avais jamais rencontré et j'eusse été fort en peine de rien pronostiquer au sujet de notre entrevue, si même j'étais admis à l'avoir. Mais j'augurais, et peut-être sur des bases solides, que l'arrivée de cette femme dissiperait les ténèbres qui enveloppaient Versilov. Je ne pouvais rester calme, et je m'irritais de me sentir, au premier pas, gauche et hésitant. Je me rappelle par le menu toute cette journée. Touchant la date de l'arrivée, le prince ne savait encore rien. Il ne prévoyait pas que sa fille dût quitter Moscou avant une semaine. Or, moi, la veille, tout à fait par hasard, j'avais été mis au fait par des paroles que Tatiana Pavlovna, qui venait de recevoir une lettre de la générale, avait chuchotées à ma mère. Des paroles que, sans doute, je n'ai pas écoutées, mais que je ne pouvais pas ne pas entendre quand j'ai vu quel émoi elles provoquaient. À ce moment-là, Versilov était absent. Je ne voulais pas renseigner le vieillard, ayant remarqué combien il redoutait le retour de sa fille. 3 jours avant, il avait même indiqué, très timidement et sur le mode allusif, qu'à cause de moi, il pourrait bien avoir des ennuis. Je dois dire cependant que dans les relations de famille, il conservait, en somme, son indépendance et son autorité, surtout en matière d'argent. D'abord, je fus tentée de le considérer comme une vraie femme. Puis j'admis que, pour faible qu'il fût, il était susceptible de ressauts d'énergie, et que cette énergie était parfois irréductible. Je note, à titre de curiosité, que nous n'avons presque jamais parlé de la générale. Plus exactement, c'est moi surtout qui évitais d'en parler. Et lui, à son tour, évitait de parler de Versilov. Et je comprenais bien qu'il ne m'eût pas répondu si je lui avais posé une des questions délicates qui m'intéressaient tant. « De quoi nous avons parlé ensemble tout ce mois ?»« De tout et de n'importe quoi. » La bonhomie de ses manières dans nos rapports me séduisait et m'étonnait. M'étonnait aussi certains détails physiques de sa personne. L'aspect général n'avait rien de singulier. Une taille haute et svelte, des cheveux gris, abondants et bouclés, de grands yeux. Mais son visage, naturellement grave, avait cette propriété de passer, d'un coup, du très sérieux au trop frivole. Et c'était d'un effet désagréable, presque inconvenant, et à une première rencontre, déconcertant. J'ai soumis ces remarques à Versilov. Il m'a écouté avec curiosité, et comme s'il n'eût pas attendu de moi des observations de ce genre. Incidemment, il m'a appris que la particularité dont je parlais s'était manifestée chez le prince postérieurement à sa maladie, et s'était peut-être accentuée ces derniers temps. Principalement, nous parlions de sujets abstraits, de Dieu et de son existence. Y a-t-il un Dieu, oui ou non? Et des femmes. Le prince était très croyant et très sentimental. Dans son cabinet, il y avait une énorme icône devant quoi brûlait toujours la veilleuse. Mais subitement, il affectait de douter de l'existence de Dieu et émettait des aphorismes sacrilèges, me provoquant à la réplique. Encore que la question du Très-Haut me passionna peu, j'acceptai le débat. Nous nous laissions gagner aux joies de la controverse et ratiocinions de bon cœur. Son terme de prédilection, c'était les femmes. Je ne le suivais pas sans répugnance sur ce terrain, et il s'en attristait parfois. C'est précisément d'elle qu'il parla ce matin-là, dès que je fus en sa présence. Il était manifestement dans l'état d'esprit frivole, lui que j'avais laissé tout imbibé de pessimisme. Cependant, il me fallait régler la question des appointements avant que des gens vinssent s'interposer. Mais entrer en matière était difficile, et je l'enternais misérablement, non sans m'irriter de ma sottise. Une fadaise du prince achevant de m'agacer, je promulguai mon opinion sur les femmes, d'un coup et avec un entrain brutal. Fausse manœuvre, qui, loin de déblayer la scène au bénéfice de la question qui me préoccupait, y installa une polémique oiseuse. 3. Pourquoi je n'aime pas les femmes? Parce qu'elles sont grossières, qu'elles sont maladroites, qu'elles sont serviles, et qu'elles portent un costume inconvenant. Telle fut la conclusion de ma tirade. « Mon cher, assez !» exclama-t-il d'un ton jovial qui accrut mon irritation. « Je ne parle pas du tout pour vous amuser. J'exprime ma conviction, sans plus. Comment les femmes sont grossières. Les femmes s'habillent de façon inconvenante. Voilà qui est nouveau !» Oui, grossière. Aller au théâtre ou à la promenade. Chaque homme sait où est sa droite. On se rencontre, on se croise, on s'éloigne, chacun inclinant sur sa droite. Une femme, je veux dire une dame, je parle des dames. Une femme, elle, marchera sur vous tout droit, sans même vous remarquer, et absolument comme si vous étiez obligé de vous écarter et de lui faire place. Je serai prêt à la lui céder, en sa qualité de créature plus faible. Mais où diable est le droit dont elle paraît s'autoriser? Où prend-elle que ce soit moi qui doive, et de toute nécessité, céder le pas? Les femmes, quand j'en rencontre, je crache. Et de quelle sornette vient-on nous rebattre les oreilles? Elles sont dans une situation humiliante. On demande pour elles l'égalité? Et quelle égalité? Alors qu'elles me foulent aux pieds ou me fourrent du sable dans la bouche. Du sable? Quel sable? Elles s'accoutrent d'une façon inconvenante. Il n'y a que les dépravés pour ne pas s'en apercevoir. Au tribunal, quand il y a une affaire de mœurs, on la juge à huis clos. Alors, pourquoi tolère-t-on en pleine rue des exhibitions qu'on soustrait aux yeux et aux oreilles du public restreint d'une salle d'audience? Elles s'affublent de falbalas pour attirer l'attention et pour qu'on s'écrie « la belle personne ». Cela, je ne peux pas ne pas le remarquer. Un adolescent le remarquera. Un enfant le remarquera aussi. C'est une lâche provocation. Que ces manières réjouissent de vieux paillards et qu'ils courent après les jupes en tirant la langue, soit. Mais la jeunesse, il faut la garder pure. Vous voyez bien qu'il ne me reste plus qu'à cracher. Elle marche sur le boulevard en remorquant une queue d'un mètre et demi qui fait une poussière horrible. Et si le promeneur ne file pas grand train devant elle ou ne fait pas un bond de côté, il est sûr d'avaler par le nez et par la bouche 5 livres de sable. Et puis, leur queue est en soie. Elles traînent de la soie sur les pavés pendant 3 verstes parce que c'est la mode. Et le mari gagne au ministère 500 roubles par an. Voilà l'origine des pots de vin. Moi, je crache toujours sur leur passage et je les injurie. Bien que je charge peut-être un peu, au fond, ces idées sont encore les miennes. « Et il ne t'en a pas cuit ?» demanda le prince. « Je crache et je m'en vais. Sans doute elles s'en aperçoivent, mais elles font comme si elles n'avaient rien vu. Elles marchent, majestueuses, et sans détourner la tête. Et pour ce qui est de les injurier, je ne les ai injuriées sérieusement qu'une fois. Oui. » 2 dames qui promenaient avec emphase leur queue sur le boulevard. Oh, je ne leur ai pas dit de gros mots, mais j'ai fait à voix basse cette remarque qu'une queue est dégoûtante.
Tu as dit cela?
Oui. Primo, elles se moquent des gens. Et deuxièmement, elles font de la poussière. Or, le boulevard est à l'usage de tout le monde. J'y passe. Celui-ci, celui-là, Fédor, Yvan, y passent comme moi. Et tous nous sommes égaux. Voilà, j'ai exprimé cela. En général, voir une femme par derrière m'est insupportable. Je n'aime pas ses allures. J'ai exprimé cela aussi, mais par allusion.
Mon ami, mais tu t'attirerais des histoires très ennuyeuses. Tu pouvais fort bien te faire appeler en justice.
Rien du tout. De quoi se serait-elle plainte? Un homme marche à côté d'elle et monologue. Tout homme, je pense, a le droit de dire son opinion au vent qui passe. J'ai philosophé. Je ne m'adressais pas à elle. C'est elle qui ont engagé les hostilités. Elles se mirent à m'invectiver, et de quel style? J'étais un méchant gamin, il fallait me mettre au pain sec. J'étais un nihiliste, elle requerrait un policier. Je parlais ainsi, profitant de ce qu'elles étaient seules, faibles femmes. Un homme me ferait fuir instantanément. Et force autre sornette. Je leur enjoignis très froidement d'avoir à me laisser tranquille, leur déclarant au surplus que j'allais passer sur l'autre trottoir. J'ajoutai que, pour bien marquer que je n'avais pas peur des hommes dont elles me menaçaient, je les accompagnerais à 20 pas en arrière jusqu'à leur domicile, puis que je stationnerais devant la porte pour attendre leur champion. Et ainsi ai-je fait.
Mais enfin...
D'accord, c'était une sottise, mais elle m'avait échauffé les oreilles.
Trois verstes durant, elles m'ont traîné à leur trousse par une chaleur caniculaire. Puis elles sont entrées dans une maison en bois à un étage. Oh, une maison très convenable. Par la fenêtre, je distinguais dans ce logis des fleurs en abondance, deux serins, trois bichons et des estampes dans des cadres. Je m'installais au milieu de la rue devant la maison et restais là à peu près une demi-heure. À trois reprises, elles me regardèrent. Ensuite, elles baissèrent tous les stores. Enfin, de la porte cochère, sortit un homme âgé qui paraissait tout endormi. Manifestement, on l'avait réveillé en mon honneur. Il s'arrêta tout près du porche, mit les mains derrière son dos et commença à me regarder. Et moi, je le regardais aussi. Il détourna les yeux. Derechef me regarda, et tout d'un coup, sa figure se détendit en un sourire. Je partis. « Mon ami, c'est du Schiller que tu me racontes là. Mais je m'étonne qu'un gaillard de ta sorte, avec ses joues vermeilles et tout cet air de santé, ait un tel dégoût des femmes. Comment se fait-il que, jeune comme tu es, la femme ne produise pas sur toi une impression plus favorable ? Moi, mon cher, quand j'avais 11 ans, mon précepteur m'incriminait de regarder trop attentivement les statues du jardin d'été. Vous désirez, il semble, prince, que j'aille trouver une Goton et que je revienne vous faire la relation de cette belle aventure. Ce n'est pas la peine. Moi-même, non pas à 11 ans, mais à 13, j'ai vu, dans sa nudité, non une statue, mais une femme. C'est même de là que date mon dégoût de ces espèces. Sérieusement ? Mais, cher enfant, une belle jeune femme à l'odeur d'une pomme ? Et tu parles de dégoût ?